Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie d'Armen Gazarian pour évoquer la question du dialogue et de la résolution de conflits liés à la mémoire arménienne, celle de 1915 bien entendu, mais comme nous le verrons, au-delà de cette date, un échange à plusieurs voix qui va se dérouler entre la France, où se trouve la diaspora arménienne à laquelle vous appartenez. Bonjour Armen.
Bonjour.
Avec la Turquie aussi, pays où vous vous rendez régulièrement pour des colloques, pour participer à des débats. Et enfin, troisième entité, celle de l'Arménie d'aujourd'hui. Alors, une autre question que nous aborderons un petit peu plus tard, c'est cette question de l'arménité. Une question qui est difficilement abordée parce qu'il y a peu d'éléments, et notamment celle de ces crypto-arméniens dont nous parlons de temps en temps, mais que nous ne savons pas vraiment cerner, qui seraient dans la Turquie contemporaine. Armen Gazarian, je voudrais vous poser une première question. Comment devient-on porteur de paix, porteur de dialogue, sur des questions qui sont particulièrement compliquées?
Grande question. C'était d'abord un engagement personnel. J'ai toujours été un militant associatif au sein de la communauté arménienne. Je suis originaire de Lyon, d'une ville de la banlieue de Lyon qui s'appelle Décines, où qui existe une grosse communauté arménienne. J'ai toujours milité dans des associations qui avaient des revendications politiques avant l'indépendance de l'Arménie, c'est-à-dire à l'époque les idéaux étaient un petit peu utopiques, où on réclamait l'indépendance alors qu'il y avait l'époque soviétique, on n'avait pas accès au territoire arménien, que ça soit en Arménie soviétique, du moins pour ceux qui voulaient porter ce type de revendications, ou en Turquie, puisque à l'époque l'ouverture sur les questions arméniennes était totalement impossible. Donc à l'indépendance de l'Arménie, je me suis engagé dans d'autres associations qui ont monté des projets dans la région du Karabakh. Après le cessez-le-feu, comme il y a eu une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 94, pour faire des programmes de repeuplement dans des villages arméniens qui avaient été détruits durant la guerre. Nous avons construit 16 villages, construisant des maisons, en faisant des programmes de développement agroéconomique et en reconstruisant des dispensaires, des écoles. Donc ce qui m'a conduit à aller m'installer en Arménie à cette époque, en 1999, où j'ai habité pendant 9 ans, jusqu'en 2008. De fil en aiguille, comme ce qui nous intéressait, c'était d'aborder les questions qu'on appelait les questions liées à la cause arménienne, aux problématiques arméniennes. On a commencé aussi à travailler en Arménie sur les régions frontalières qui subissaient, dont les villages subissaient des agressions de la part de l'Azerbaïdjan, pour justement endiguer le problématique de dépopulation de ces villages. Ensuite, nous avons travaillé à partir de 2004-2005 en Géorgie sur les questions des droits des minorités, notamment les minorités arméniennes, puisqu'il y a deux grosses populations arméniennes en Géorgie, dans la région de Samsor et Javareti et à Tbilissi, où là, il y avait des questions de droit à la langue et droit de préservation de l'identité religieuse, notamment de liberté de culte et de... je ne vais pas m'étendre sur ces questions. Donc, de fil en aiguille, avec l'ouverture, en habitant en Arménie, en voyant en faisant un constat géopolitique et politique de la région, à l'ouverture des questions arméniennes en Turquie à partir de 2005-2006, puis qui s'est développée après la mort de Landing en 2007, nous avons pris le coup de vouloir monter des projets directement en Turquie.
Il faut rappeler qui est Hrant Dink, ce journaliste turco-arménien qui a été assassiné en 2007, si je ne me trompe pas.
19 janvier 2007.
Voilà, et qui était un traumatisme international et a commencé par une grande partie de la population turque, stambouliote. On se souvient de ces centaines de milliers de personnes qui ont défilé dès le lendemain. Vous étiez parmi cette foule ?
Non, à l'époque, nous n'étions pas présents à Istanbul. Faut dire que à l'époque, aller porter ces questions en tant qu'Arménien de la diaspora, était très compliqué. On a fait il y a une évolution depuis 10 ans sur ces questions où on a fait un bond la question a plus avancé en 10 ans en Turquie qu'elle n'a avancé en 100 ans de combat de la diaspora arménienne. Parce qu'elle portait justement le constat de ce que disait Landing, c'est que la question du génocide arménien et des questions arméniennes se règle avant tout en Turquie par et avec les Turcs. Nous, on a voulu s'impliquer justement dans cet axe, en montant directement des projets en Turquie.
Alors vous écrivez, il est primordial de ne pas perdre de vue sa dimension, donc la dimension de cette question, cette dimension européenne, et que cette problématique doit avant tout se régler en Turquie. Vous êtes tout de même un pionnier dans cette démarche associative, démarche militante.
On n'est pas des pionniers, puisqu'il y avait différents parcours individuels qui avaient commencé à faire ce genre de projet. Là où nous, on a essayé d'apporter une vision différente, c'était qu'il, pour régler cette problématique, il fallait la régler du point de vue de trois sociétés civiles, c'est-à-dire la société civile d'Arménie, de Turquie et de la diaspora. Puisque à l'heure actuelle, depuis 20 ans, il existe un État arménien qui n'a pas de relations diplomatiques avec la Turquie. Mais ça, il y a eu tout un, depuis 10 ans, des différentes formes de projets, de tentatives de réconciliation entre l'Arménie et la Turquie, mais qui étaient plus des rapports bilatéraux d'État à État. Là, la question du génocide et la question de l'identité, c'est une question qui est portée au sein de la société civile turque, mais qui touche aussi plus les Arméniens de la diaspora, étant donné qu'ils, eux, sont issus de ce territoire, et non pas de la République d'Arménie, bien qu'une partie de la population de la République d'Arménie est aussi descendante des victimes du génocide. Donc il y a un lien direct entre les Arméniens de diaspora et la Turquie actuelle, puisque mes grands-parents, tous ceux qui sont descendants des victimes du génocide de 1915, sont nés dans les territoires actuels de la Turquie.
Vous avez retrouvé les endroits, les lieux, les villages peut-être de ces origines?
J'ai été dans les villages et les villes où habitaient mes grands-parents pour me donner un ordre d'idée, mais aussi dans d'autres endroits de Turquie où, paradoxalement, là où on pensait qu'il n'existait plus rien sur la question arménienne, puisque ou sur les Arméniens, il y avait encore des choses qui avaient été préservées par les populations qui avaient côtoyé les Arméniens à cette époque. Ce qui nous a donné l'idée en 2010 de créer un groupe de recherche ethnographique et ethnomusicologique avec l'Académie des sciences d'Arménie et l'Université d'État pour aller dans les territoires turcs retrouver des genres et des instruments musicaux qui avaient été préservés par les populations locales. Donc à côté de ça, on a monté un ensemble musical avec des jeunes musiciens du conservatoire de Yerevan, qui nous a permis de faire plusieurs missions dans l'est de la Turquie, ce qu'on appelle l'Arménie occidentale et que maintenant on définit par l'Anatolie. Ça nous a permis d'aller dans des régions comme le Dersim, à Diyarbakir, à Van, chez les Hamchen, qui sont une population arménienne qui ont été islamisées au XVIIIe siècle et qui, eux, ont préservé un langage de mélange arménien-turc, plus beaucoup de ce qui est la musique et les chants. Donc ça nous a permis de travailler directement sur ces terrains et avec l'ensemble musical de faire des concerts et de faire ce qu'on appelle des workshops ou des résidences musicales avec des artistes locaux.
Alors Armen Gazarian, vous êtes sorti de la posture, vous êtes un homme de terrain, un homme de contact humain. Vous allez vous-même à la rencontre de ces populations différentes, voilà, héritières de cette histoire. Vous avez deux supports, deux moyens d'agir, un site internet qui s'appelle RIPER, voilà. Et j'invite nos auditeurs à le consulter. On mettra le lien sur les pages de France Culture dans Chrétien d'Orient. Et vous avez ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu, ce projet VAN. Donc vous n'êtes pas un idéologue, pour caricaturer un petit peu, vous êtes un homme vraiment de concret. C'est-à-dire, vous voulez mettre les gens ensemble et l'un de ces moyens était la musique. Pourquoi ?
Parce que c'était le moyen le plus simple de réunir des gens et d'avoir une approche en dépolitisant les questions qui tournent autour des Arméniens en Turquie. Bien que là où nous avons été en Turquie, que ce soit au Dersim, chez les Hamchen, à Diyarbakir ou à Van, les populations locales qui sont kurdes ou alévis sont en général assez bienveillantes vis-à-vis des Arméniens, ce qui est récent, hein, ça date pas depuis très très longtemps, parce que d'une certaine manière, en revivifiant la culture arménienne sur place, ça leur permettait eux aussi de mettre en avant la question kurde. Donc, il y avait aussi un intérêt politique.
Un échange de bons procédés.
Voilà, un échange de bons procédés.
Ne soyons pas naïfs.
C'est-à-dire que c'est plus simple de faire un projet à Diyarbakir que de le faire à Trabzon, qui est quasiment impossible, qu'à Istanbul. Puisque on a travaillé pendant des années avec la mairie de la municipalité de Diyarbakir, qui a invité plusieurs fois l'ensemble musical pour travailler avec le conservatoire local qui s'appelle Dikran, d'un nom d'un grand chanteur kurde, qui est d'origine arménienne. Donc ça nous a permis ensuite d'amener d'autres projets avec la mairie, notamment l'organisation d'un 24 avril, une commémoration du 24 avril en 2014, que nous avons organisée avec la municipalité, ce qui était la première fois sur la scène de crime de 1915 et sur la terre d'origine d'où viennent les Arméniens. Il y avait déjà eu depuis quelques années des commémorations à Istanbul, mais là c'était la première fois que ça se faisait sur un lieu arménien.
Je suis ce matin en compagnie d'Armen Gazarian pour évoquer un site internet, RIPER, et cette volonté de dialogue, d'échange entre les cultures, entre les points de vue. Une question importante maintenant qu'on a un tout petit peu évoquée, c'est cette question de l'arménité. Alors vous parlez justement de ce kurde d'origine arménienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On parle de crypto-arménien. Alors Randink les estimait à 2 millions de familles, donc ce qui ferait des millions de gens dans la Turquie d'aujourd'hui. Mais au fond, on n'a aucune idée, on n'a aucun chiffre précis.
Il n'existe aucune étude statistique qui pourrait définir à combien pourrait se chiffrer le nombre de ce qu'on appelle les crypto-arméniens, qui vont d'arméniens cachés, qui ont gardé leur foi chrétienne, mais qui le cachent, et d'arméniens islamisés ou alévisés dans la région du Dersim, qui ont été soit kurdifiés dans les régions kurdes ou turquifiés dans les régions turques. C'est des estimations qui se font sur la base d'orphelins ou d'enlèvements de jeunes enfants et de femmes qui auraient été faits durant le génocide, où le patriarcat de l'époque les chiffrait à 100 000. Donc il n'y a pas de chiffre exact pour savoir combien ils seraient, mais la problématique c'est de savoir comment eux se définissent à partir du moment où ils revendiquent leur identité arménienne. Et là ça pose un problème parce que le chiffre statistique aujourd'hui déterminerait plusieurs millions de personnes, mais effectivement il n'y a pas plus de 4 à 5 000 personnes qui se définissent, qui ont fait une sorte de revival identitaire sur cette question, puisqu'il y a une ouverture depuis une dizaine d'années qui leur permet d'affirmer cette identité, mais nous les estimations qu'on peut en faire ne dépasseraient pas les 5 000 personnes.
Alors nous avions évoqué cette question donc des crypto-arméniens avec un livre Les restes de l'épée, donc ce sont les descendants de petites filles enlevées à l'époque qui ont été mariées, sauvées. Alors il y a plusieurs cas, hein, soyons pas monocolores dans cette question-là, et qui sont des grands-mères en fait, qui ont été les grands-mères ou arrière-grands-mères de générations actuelles, et il y a eu plusieurs livres publié sur cette question, donc c'est vraiment un vrai sujet. Mais au fond, ce sont des musulmans. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut être arménien et musulman ?
C'est la grande question qui n'est pas débattue à l'heure actuelle. C'est une question qui est d'identité arménienne qui est plus large, qui dépasse cette question d'arménien, de crypto-arménien, puisque elle n'est même pas définie dans la diaspora non plus.
J'imagine bien.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend l'exemple d'un arménien islamisé, d'un crypto-arménien qui a un 16e de sang arménien qui veut se retrouver sur son identité. Pourquoi on l'accepterait pas alors qu'il serait musulman, et qu'on va accepter le même phénomène d'un arménien, d'un franco-arménien qui aurait un 16e de sang arménien qui lui pourrait être accepté dans les différentes structures et se revendiquer de cette manière. Donc il y a un problème sur la définition de ce que c'est l'identité, de qu'est-ce que l'identité arménienne aujourd'hui, notamment en diaspora. C'est pour ça qu'on essaye de travailler sur cette question d'identité avec les Arméniens, ces crypto-arméniens, puisque depuis le temps que nous faisons des voyages dans ces régions, nous avons appris à les connaître, puisqu'il y a quelques associations qui se sont créées depuis 2-3 ans, notamment à Diyarbakir, à Mouche et au Dersim, et eux sont en questionnement constant, puisqu'ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas de possibilité d'avoir accès à une culture de masse arménienne, puisqu'il n'y a rien, ils sont dans un... Et il y a toujours cette question inhérente à la religion et de quelle manière ils peuvent se définir arméniens en étant musulmans, alors que par exemple à Diyarbakir, il y a plein de gens qui se réclament de leur identité, qui sont athées, qui ont, de la même manière que la plupart des Arméniens de diaspora ne fréquentent pas l'église, ou alors quelques fois par an pour des fêtes bien spéciales. C'est pas la foi qui fait l'identité, donc c'est une question qui n'est pas abordée, qui devrait être abordée, puisqu'elle a un sens plus large que ces questions de crypto-arménien, mais aussi une définition des Arméniens, de qu'est-ce qu'être arménien aujourd'hui, par exemple, en France.
Est-ce qu'on peut espérer un jour qu'il y aurait des colloques, qu'il y aurait un véritable questionnement sur ces points importants tout de même ?
Il y a déjà des études qui ont été faites, il y a différents colloques qui se font. Ils se font principalement en Turquie. C'est pas un débat de masse, puisque depuis une vingtaine d'années, la diaspora s'est concentrée sur le tout mémoriel du génocide arménien et non pas sur sa question de résolution politique.
C'est vous êtes un peu en rupture quand même avec cette approche.
C'est pas qu'on est en rupture, c'est que nous on part du principe que la question du génocide arménien est une question qui doit être résolue politiquement. Donc pour porter un combat, pour faire la paix ou pour faire la guerre, il faut être deux. Là, en l'occurrence, le combat n'est pas porté là où il doit se régler, c'est-à-dire en Turquie. Donc on a pensé pendant des années qu'en faisant une pression internationale de reconnaissance de différents pays, la Turquie allait abonder dans ce sens, mais ça ne fonctionne pas, surtout à l'heure actuelle où on voit les velléités autocratiques des autorités turques sur des questions qui sont hautement plus sensibles. Ça pose une problématique d'implication et de savoir comment s'adresser à ce type de population. De porter le combat ou la problématique directement là où elle doit se régler, c'est-à-dire en Turquie. C'est pour ça que nous avons créé un site internet qui s'appelle Repair, où nous avons donné la parole à différents leaders d'opinion de Turquie, d'Arménie et de la diaspora sur des questions de reconnaissance du génocide, mais aussi des réparations juridiques, tout autant que les problèmes d'identité ou de rapprochement géopolitique vis-à-vis de la Turquie, de l'Union européenne, du poids de la Russie. Tout ça traduit en quatre langues pour que ça soit...
Mais revenons à cette question des 4 à 5 000 crypto-arméniens dont vous parlez, donc des gens qui sont véritablement identifiés. Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes porteurs de ces contradictions, porteurs de ces paradoxes dont nous essayons de parler de manière assez maladroite, peut-être de dialogue, de réconciliation, de passerelle? Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes dans leur chair et dans leur existence la preuve que nous devons avancer?
Passerelle, c'est exactement le mot qu'il faut définir. Je ne sais pas si on peut leur redonner l'identité arménienne. D'abord, je ne sais pas comment ça pourrait être fait. C'est d'ailleurs, on est en train de réfléchir sur un projet sur cette thématique de construction d'une approche identité vis-à-vis de ce type de population. Mais avant tout, on les prend justement, nous, pour des passerelles, parce qu'ils sont un lien avec le territoire, parce qu'ils sont sur des territoires que les Arméniens habitaient, ils sont restés dans des territoires de l'Arménie occidentale. Il y en a aussi beaucoup du fait des vagues d'immigration interne à la Turquie qui sont à Istanbul ou Ankara, et qui peuvent être des gens qui peuvent porter une certaine conception, une meilleure conception des Arméniens qu'elle est portée à l'heure actuelle en Turquie. Puisque l'insulte suprême en Turquie, c'est quand même être arménien. Donc il y a un poids local en dehors du facteur de résolution de conflits en termes politiques, où il y a un type de population qui peut être justement une passerelle entre les aspirations des Arméniens, de la diaspora et d'Arménie, pour faire des choses directement en Turquie.
Alors je reviens à cette idée de terrain qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, c'est quand vous êtes vous-même là-bas, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous retrouvez une forme d'atavisme, une forme de mémoire qui vous dites voilà, ce sont mes paysages.
Alors, les premières fois où j'ai mis les pieds en Turquie, c'était en 1999. Donc j'y étais après constamment puisque comme j'habitais en Arménie, c'était facile d'y aller. Depuis une dizaine d'années, j'y vais 4 à 5 fois par an et j'ai toujours le même problème. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une grande difficulté à aborder la question d'Arménien diaspora directement en Turquie, c'est qu'il y a un gros choc psychologique qui se crée du fait du traumatisme du génocide, mais aussi du fait qu'on retrouve en fait tout le milieu naturel dans lequel on a été baigné. Donc c'est un petit peu comme si je me retrouvais chez moi, que je voyais des gens autour de moi et que je me posais la question, sont-ils aussi responsables de la question du génocide? On peut pas directement leur mettre ça sur le dos, mais c'est une question qui me taraudait en me disant, moi je suis descendant de victimes du génocide, mais eux sont les descendants peut-être des bourreaux. Donc ensuite il y a une seconde phase qui se positionne toujours sur le fait d'être naturellement bien, puisqu'on se retrouve dans quelque part dans notre identité.
Avec un partage culturel,
voilà,
j'imagine.
De la même manière que quand j'ai vécu 8 ans en Arménie, cette question d'identité arménienne de diaspora s'est complètement évacuée, puisque j'avais plus à me questionner, puisque j'étais en Arménie avec des Arméniens. Donc cette question n'existait plus pour moi. J'étais dans un milieu naturellement arménien. De la même manière que cette question d'identité n'est pas abordée en Arménie, puisqu'ils le sont naturellement. Et la troisième phase qui venait en fait des voyages en Turquie, c'est qu'au bout d'un moment, je culpabilisais de ne pas culpabiliser, en fait. sur cette question. De fait, c'était assez bizarre. Donc le fait de m'impliquer directement sur des projets qui touchent directement la question du génocide ou les questions des Arméniens, c'est quelque chose qui est assez lourd en général et pendant des années, je l'ai mis de côté pour pas que ça me submerge émotionnellement puisqu'on est prêt à partir en larmes à chaque coin de rue. Donc j'essayais de me détacher de tout ce qui était émotionnel. Mais par exemple, dès que je rentrais en France, je me retrouvais avec 15 jours après avec des poussées d'herpès ou des boutons de fièvre, il fallait que ça sorte quelque part. Donc c'est pas quelque chose de naturel d'y aller, puisqu'il y a quand même un gros fond psychologique qui joue sur la question du génocide, notamment parce que moi, ma génération, moi j'ai connu mes grands-parents, donc c'est un lien direct. Je pense que la nouvelle génération qui n'aura pas de lien direct avec les descendants des victimes verra plus ça sur une question historique et non pas sur une question émotionnelle, puisque ça tient plus aussi sur une histoire familiale que sur une histoire avec un grand H.
Alors, je suis très sensible à ce que vous dites, parce qu'à chaque fois que j'ai reçu quelqu'un qui est retourné, enfin qui est allé en Turquie, hein, je pense à Pascal Maguession qui est venu, ou à Naïd Termination qui vient très régulièrement dans notre émission, c'est vrai qu'on le sent. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Quels sont vos espoirs, Armen?
Je suis optimiste dans le sens où on peut continuer à faire des choses en Turquie dans la mesure où on est devenu le dernier des problèmes. Maintenant, faire les choses directement là-bas, ça pose d'autres problèmes puisque tous les partenaires qu'on avait sont soit en prison, soit complètement démotivés, soit en peur. Donc, sur le très court terme, je suis pas très optimiste parce que la situation ne va pas dans le sens où l'ouverture va se prolonger. Mais on sait jamais ce qui peut se passer parce que c'est un pays qui peut se retourner comme une crêpe.
Merci. J'étais en compagnie ce matin d'Armen Gazarian pour évoquer les questions assez compliquées entre l'Arménie, la France et la Turquie. Merci Armen.
Merci Sébastien de m'avoir accueilli.
Alors nous allons retrouver maintenant le service protestant et je voudrais avant cela remercier Dany Journeau, Pierre Monteil, Anne-Catherine Lochard pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite un très bon dimanche.